nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Il demande à Élise, sucre, lait. Élise lui dit, pur. Et il la serre. Merci. Puis, il sert Charlotte et Élise et Maurice. Merci. Et il se retire. Élise demande, comment vont vos affaires, monsieur Franblanc? Il dit, c'est la routine. Elle lui dit, ça doit être très intéressant d'avoir à s'occuper de tout ça. Pas tellement, mais puisqu'il le faut. Vous devez le faire avec beaucoup de plaisir. La joie d'avoir le groupe le plus important, peut-être du monde. Maurice lui dit, j'étais peut-être plus heureux avant, lorsque l'entreprise était plus petite. Là, j'étais vraiment le patron, tandis que maintenant, je suis comme un maillon de la chaîne. Elle lui dit, sûrement pas. Vous dites cela parce que vous n'avez pas... Mais vous savez que vous êtes... le maître tout puissant du groupe, un peu comme le roi et ses sujets. Vous avez plus de pouvoir que n'importe quel président de la République qui, lui, le surveille et contrôle constamment et surveille et contrôle constamment. Vous décidez et les choses se font. Autrement, c'est leur envoi. Quel pouvoir? Non! Il lui dit, c'est pas tout à fait ça. En réalité, j'ai aucun pouvoir. Même pas celui de me retirer. Même pas ça. Elle lui dit, quelle idée idiote de vouloir se retirer. Je crois que votre mari est un peu cafardeux. Il faut que vous occupiez de lui. Vous savez que les hommes sont plus fragiles que nous. De bonnes vitamines, et ça repartira.
Bon.
L'homme le plus puissant, celui qui peut et peut tout se permettre ce lien impuissant, alors qu'il a même le pouvoir de faire sauter la planète. Mon Dieu, et si vous étiez à ma place, moi, avec mes pauvres foufous. Pourtant, je me sens très importante. Savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que je me sens en vie, mon ami. Oui, en vie. Oui, tant qu'il y a de la vie, il y a de la force. Dieu est en nous. Et votre fils, il est comme vous? Tout aussi déprimé?
Maurice lui dit, lui c'est un rêveur. Il s'isole du monde.
Elle lui dit, ce n'est pas bien, pas bien. Il doit être dans la vie. Vous devez le prendre avec vous.
Maurice lui dit, il ne veut absolument pas.
Pourtant il faudra bien un jour.
Pourquoi?
Pour qu'il prenne votre place. Et il faudra bien qu'il travaille.
Non, Maurice lui dit. Il n'a pas envie de prendre ma succession.
Il faudra bien,
Maurice lui demande. Et pourquoi? Vous avez des enfants?
Mais non, pourquoi faire? Je ne suis que de passage ici. Je suis ici et là.
Alors, il continue la discussion. Charlotte se dit que c'est une femme de tête.
Puis, Elise se lève et leur dit, il se fait tard, je crois que je vais être obligée, c'est de vous quitter.
Charlotte se lève et lui dit,
déjà? Oui, demain je travaille, j'ai des temps de rendez-vous.
Maurice se lève aussi et lui dit, je vais vous raccompagner.
Je ne veux pas vous gêner,
pas du tout.
L'amène jusqu'à l'entrée, sorte du salon,
Charlotte lui dit, j'espère que nous nous reverrons.
Oui, bien sûr, et je vous montrerai ma maison de couture.
Vous savez que j'ai embauché pour mon prochain défilé Pamela.
Et Charlotte fait,
oh, c'est formidable.
Elise lui dit, venez me voir, disons, mercredi à 15h, à ma maison, boulevard Saint-Germain.
Elle dit au père, j'ai pas choisi le boulevard Saint-Honoré.
Et il la quitte.
Une fois dehors, le père l'amène à la voiture qu'il va conduire lui-même. Il la fait rentrer dans la voiture et entre lui-même. Puis, il met la voiture en route.
Absolument que votre fils travaille avec vous.
Il lui dit, il ne veut pas.
Elle lui dit, mais il a une mission. Essaie de prendre votre place.
Il lui dit, ne parlons plus de ça. Ça ne regarde que lui et moi.
Elle lui demande, et à Lyon, les travaux avancent? Parce qu'il paraît que les canuts vous ont pas très bien accueilli.
Il lui dit, et elle est très bien accueillie, mais il y a dans la ville trop d'anards qui se sont emparés de certains quartiers et font comme s'ils leur appartenaient. Mais la police les fait chasser.
Thank you.
Ils arrivent devant son immeuble, vieil immeuble du 19e, bien de 4 étages, plus chambre de bonne, porte-palière à 2 battants.
Elle lui dit, merci beaucoup, c'est chez moi ici, le salon de couture est au premier, et moi j'habite le deuxième. Bonne nuit.
Bonne nuit.
Elle sort de voiture, et va vers l'entrée de son immeuble. Elle a entendu la voiture partir. La porte-palière de son immeuble avec une clé. Et entre. Grand hall en marbre blanc et gris, avec au milieu une fontaine, bel escalier de pierre et rampe sculptée. Elle va prendre l'ascenseur. Ascenseur calme, ouvert. L'ascenseur suit le long des escaliers. Elle monte jusqu'au deuxième. Elle sort de l'ascenseur. Là, elle va vers son appartement. Elle va ouvrir la porte de son appartement. Sur le palier, il y avait une commode avec vase et des roses. Elle a ouvert la porte de son appartement. C'est un 5 pièces, grande 5 pièces, meublée vrai Louis XV. Les pièces sont claires, tissu très pâle, mur avec du tissu très pâle, rose, beige, crème, gris, vert et bien sûr blanc. Grand couloir qui mène aux pièces, elle va à une porte à double battant avec des glaces. Elle entre. C'est un immense salon avec une cheminée de marbre blanche, deux fenêtres qui encadrent une porte-fenêtre qui donne un balcon sculpté qui donne sur le boulevard. Se trouve debout dans la pièce un homme, grand, mince, blond, petite moustache très fine, distingué, très anglais. Il doit avoir dans les 30 ans. Costume marine, main dans les poches. Il demande, alors, ça s'est bien passé? Elle lui dit, oui, à merveille, sauf le mari qui déprime complètement. L'homme lui dit, malheureusement, je ne peux rien faire pour lui. Elle lui dit, oui, et tu as aussi suffisamment à faire. Il lui dit, c'est quand? Elle lui dit, tu es bien pressé, n'est-ce pas urgent? Elle lui dit, oui, mais il faut attendre un peu que tout soit préparé, que le terrain soit prêt. Elle s'approche de lui. Lui prend les bras. Les mains. Et lui dit, et puis, tu as de si jolies mains que je ne veux pas les perdre tout de suite. Il lui dit, tu ne les perdras pas encore. Et il l'embrasse. Charlotte, est venue voir Élise, lui a fait visiter sa maison de couture, présenter ses modèles, lui a proposé quelques robes. Charlotte en a choisi quelques-unes à un prix très abordable, prix d'amis. Puis, Élise a présenté ses mannequins. Puis, elle l'a mené chez elle pour prendre le thé. Elle l'amène dans son salon.
Entrez. Asseyez-vous.
Elles s'assoient toutes les deux.
Elle lui dit, en travaillant sur place, j'ai tout à portée de main. Et si un jour mon mari tombe malade, je pourrai m'occuper de lui. Charlotte lui demande, qu'est-ce que fait votre mari comme métier? Et Élise lui dit, il est absent pour le moment, mais il travaille pour le cinéma. Il cherche de nouveaux talents, fait faire des cours d'essai et débuter dans des petits rôles. Charlotte lui dit, « Ce doit être très intéressant. » Élise lui dit, « Il est très intéressant lui-même. » Elle se lève et va au piano prendre un cadre. C'est la photo de son mari. Elle va lui montrer. Tiens, vois comme il est bien. Charlotte regarde la photo et lui dit, oui, il a l'air très bien. Élise lui dit, il est très beau gosse, c'est distingué. Charlotte lui dit, oui, il a l'air très bien. Elle se dit qu'il fait un peu jeune pour elle et a l'air d'être un homme à femme. Élise lui dit, c'est un homme charmant et toutes les femmes en sont en raffolent. Et ton mari, le moral, va-t-il mieux? Charlotte lui dit, oui, mais ça peut aller. Mais tu sais, avec toutes ces responsabilités qu'il a, ce n'est pas facile pour lui.
Charlotte va toutes les semaines chez Élise pour les essayages de ses robes. C'est très long parce que c'est fait du sur-mesure main. Après les essayages, elles vont discuter au salon en prenant le thé. Les jours passent. Maurice au siège, les gens lui sourient et lui parlent un peu plus. On essaye de lui être agréable. Mais Maurice n'est bien qu'avec un seul homme, son homme de confiance, le seul, c'est-à-dire le seul qui est resté l'ancienne équipe, le jeune Charles Mercier. Mercier est toujours en dehors des conflits, fidèle à son patron. Maurice se considère comme un ami. Mercier lui dit tout ce qui se fait dans l'entreprise
est au siège. Pour les choses importantes, Maurice ne les donne qu'à Mercier.
Les jours passent.
Dans un immeuble d'un quartier populaire de Paris, dans la cave de cet immeuble, dans la cave d'un des locataires, dans le noir, au fond de cette cave qui est pleine de vieilleries, sort de l'ombre une main, puis une tête d'homme. Blanche, cheveux blancs, le visage est très osseux, les yeux fixes au fond de deux trous. L'homme avance d'un pas et on voit qu'il est grand, mince, habillé d'un vieux manteau noir à plissés, sale, plein de poussière blanche. Il porte de gros bottequins noirs.
De la cave, prenant de grands poings à la porte pour qu'elle s'ouvre. Et il s'avance dans le couloir de la cave. De la cave et va vers la sortie de l'allée.
La rue déserte. Nuit noire. Se met en marche d'une façon saccadée, comme une personne qui n'arrive plus à marcher ou qui n'a pas marché depuis longtemps. Il marche sans regarder les rues. En allant droit devant lui. Il va rentrer dans un vieil immeuble, mais qui cette fois est bourgeois. Il prend les escaliers pour monter jusqu'au troisième étage. Arrivé au troisième, il sonne à une porte. La porte est ouverte. Un vieil homme
en robe de chambre, de soie bordeaux, cheveux blancs, grand mince, le vieil homme demande.
C'est vous? Vous désirez?
L'homme lui dit.
C'est moi, je viens d'arriver.
Le vieil homme lui dit.
Entrez. Il entre. Il ferme la porte. Venez, allons au salon.
Il le mène au salon.
Asseyez-vous.
Il lui montre un fauteuil. Et lui s'assoit en face. Vieux lui demande,
vous êtes arrivé quand?
Il y a une heure à peu près.
Ça n'a pas été pénible?
Non, pas trop, comme d'habitude. Le vieil homme lui dit,
m'a dit que vous veniez, mais pas pourquoi. Quelle est votre mission?
L'homme lui dit, mission très spéciale. Difficile même.
Vous avez besoin d'aide?
Oui, surtout pour le début.
Mais...
Dites-moi comment ça se passe ici. Le vieil lui dit.
Pas très bien. Nous patinons sur place. Le cerveau humain a des difficultés à s'adapter.
L'homme lui dit.
Et les autres? Ils font ce qu'ils peuvent. C'est pour ça qu'ils vous ont fait venir, pour accélérer la chose.
Oui, l'homme a fait venir. J'en ai inquiet au siège. Il ne devait pas perdre de vue le but. Surtout pas le but.
Le vieil homme lui dit, je le sais.
Et où en sont vos recherches?
Le vieil homme lui dit, elles avancent bien. J'ai presque tout.
Injecter
la bactérie osseuse d'ordre dans son corps.
demander n'importe quoi. La bactérie donnera l'ordre au cerveau. On le téléguide à distance par ordinateur. On sait où il va, ce qu'il fait. C'est tout sur lui, ce qu'il dit, voit. On peut même lui demander de se détruire. Et alors, l'homme lui demande, pour toujours, oui, jusqu'à la mort de la bactérie. Quelle est cette personne, le vieil homme lui dit. Qui est-ce ? Le vieil homme lui dit, il se nomme J.S. Son nom. Il lui est proche. Le lui dit, pour faire ma mission, il faut me le dire. Il se penche vers le vieil homme, tout proche. Et sans que le vieil homme ne le voie, il donne un coup de couteau dans le corps. Le vieil homme fait la grimace et tombe en avant. L'homme se retire. Le vieil homme tombe la tête sur la table basse. Le sang gicle sur le sol. L'homme fouille tout l'appartement. Au bout d'un moment, il n'a rien trouvé. Alors, il sort de l'appartement en se disant qu'il faut qu'il retrouve ce JS. Qui doit l'éliminer ou le paralyser. Les mains vides, se retrouve dehors, la rue est déserte, il s'enfonce dans la nuit. Il faut que je retrouve ce JS, absolument le retrouver. Pour l'éliminer ou le paralyser.
et s'est enfoncé dans la nuit. Les jours passent. À l'après-midi, Elisabeth a rendez-vous avec Élise pour ses essayages. Elle va au salon de couture. La terre d'Élise qui la reçoit, une femme hautaine, grande, mince, robe grise simple. Elle lui dit « Bonjour madame, j'ai une commission pour vous. Madame Élise aimerait c'est que vous puissiez passer à l'appartement. » Élise lui dit « Maintenant, oui madame, viens, je monte. » Elle la quitte. Puis, elle monte à l'étage en dessus, au deuxième étage. Sonne. La porte s'ouvre et voit apparaître le mari d'Élise qu'elle n'avait jamais vu. Elle lui dit « Bonjour, je suis Charlotte Framblanc. Élise m'a dit que je devais monter à son appartement. » Elle lui dit « Entrez, je vous en prie. » Elle entre. Il ferme la porte. Et lui demande « Élise est là ?» Il lui dit « Je suis mari d'Élise. » Charlotte lui dit « Enchantée !» Il lui dit « Venez, allons au salon. » Et il la conduit. Entrez. Asseyez-vous. Il monte en fauteuil et s'assoit. Lui s'assoit en face d'elle. Elle lui demande « Élise n'est pas là ?» Il lui dit « Non, elle était obligée de s'absenter cet après-midi. Elle ne viendra que demain matin. » Elle lui dit « Je suis confuse. Je vais m'en aller. » Il lui dit, surtout pas comme ça, vous allez boire un petit quelque chose. Elle lui dit, Élise, qui m'a fait monter. Il lui dit, oui, bien sûr, vous montiez bien lorsque vous veniez au salon. Elle fait, oui. Elle ne sait pas pourquoi, mais se sent gênée d'être seule avec cet homme qu'elle ne connaît pas. Et puis, malgré elle, elle le trouve bizarre qu'on l'ait fait monter comme ça pour rien. Il lui dit, vous désirez boire du thé, café? Elle lui dit, non, pour une fois, j'aimerais un petit peu d'alcool. Tenez, du chéri. Il lui dit, vous avez raison, c'est mieux. Il se lève pour aller chercher la boisson. Elle se dit, ça ira plus vite pour boire et après je pars. Et il revient avec une bouteille et deux verres qu'il dépose sur la table et fait le service. Merci.
s'assoit. Elle se dit qu'il est bel homme, mais beaucoup trop jeune pour Élise. Trop joli garçon aussi, il lui dit. Je ne savais pas que ma femme avait une amie aussi charmante. Elle lui dit, oh charmante, je suis plus toute jeune. Il lui dit, plus toute jeune, comment ça? Vous semblez très jeune. Elle lui dit, ne dites pas de bêtises, je suis plus vieille que votre femme, j'ai plus de 40 ans. Il lui dit, vous ne les faites pas, merci. Il lui demande, vous êtes marié? Elle lui dit, oui, bien sûr que je le suis. Il lui dit, et fidèle? Elle lui fait, bien sûr. Bien sûr. Elle termine son verre et se lève. Il lui dit, je pense que je ferais bien de partir. Il se fait tard et j'ai mon essayage à faire. Il se lève aussi et lui dit, pourquoi voulez-vous partir? Elle lève ses épaules et lui dit, parce que je vous l'ai dit. Elle fait un pas pour aller vers la sortie. Il la retient par le bras. Elle regarde son bras et lui demande, quoi? Il lui dit, j'ai peur de me quitter. Déjà? Ce serait dommage, non? Il se penche pour l'embrasser. Il se dégage et lui dit, non mais, ça ne va pas. Il lui dit, si, bien au contraire. Elle fait un geste pour se dégager son bras. Il le maintient bien serré et se penche encore une fois pour l'embrasser. Elle se dégage. Non! Pourquoi? C'est une bonne occasion. Je ne suis pas un bel homme. Non, pas chez moi! Il essaie encore de l'embrasser. Se dégage. Il se plaque plus fortement contre elle. Il la fait tomber à la renverse. Oh! Il est sur elle. Il veut lui prendre des lèvres et lui dit, tu as autant envie que moi. Laisse-toi faire. Elle se met à crier, au secours, au secours, au secours. Il lui dit, tu peux bien crier autant que tu voudras, l'appartement est bien insonorisé. Il se bat encore plus contre elle. Elle sent son corps très fortement contre elle, son ventre et son visage qui est tout contre le sien. Elle ne peut s'en aller. Elle gigote, vous se dégagez. Elle lui dit, laissez-moi, c'est ridicule, je vais en parler à votre femme si vous continuez. Il lui dit, ma femme, et c'est elle qui vous a donné à moi, oui, toutes ces belles clientes, elle me les envoie. Elles ne font pas d'histoire, elles se laissent faire, trop heureuse d'être avec moi. Elle lui dit, eh bien pas moi. Il lui dit, fais comme les autres, tu en veux. Tiens, il se soulève légèrement. Et lui déchire sa robe. Du mal. Il lui arrache son soutien-gorge. Apparaît deux beaux seins fermes et blancs. Il lui dit, tout excité, ma femme ne se trompe jamais.
Laissez-moi.
Il mordit les seins. Elle soupire. Il les baise. Et lui dit, tu vois, tu en as besoin. Tu aimes ça. Allez, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Et lui dit, les larmes aux yeux, justement, je vous déteste. Laissez-moi. Il lui dit, attends. Elle sent qu'il monte, qu'il soulève sa robe et monte le long de ses jambes, le long de ses cuisses. Elle est en sueur, lui aussi, il a les mains sur son slip.
Ne faites pas ça, non.
Il lui dit, pourquoi? Tu es toute mouillée.
Elle lui dit, j'irai à la police.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.